VOA Afrique, les infos, à Washington.
Salut à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous pour développer les derniers points de l'actualité. Un mouvement de grève générale a été lancé ce mercredi par l'opposition et la société civile à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle réclame des élections avant la fin de l'année, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Les banques, stations-service et autres commerces sont restés fermés à Bukavu, capitale du Sud Kivu. Les élèves qui s'étaient rendus à l'école ont été renvoyés. Des agents de la police anti-émeute étaient positionnés dans différents points de la ville. RDC toujours, un collectif d'intellectuels de la diaspora et de l'intérieur, demande au Conseil de sécurité des Nations Unies d'aider à mettre sur pied une transition sans la classe politique congolaise actuelle. Les animateurs de cette période devraient, d'après le collectif, préparer les élections sans y participer. Docteur Miatusila Malonga est l'un des signataires de la lettre.
Pour sortir de cette impasse, il faut une transition sans Kabila. Mais nous disons que c'est une transition sans les politiciens. On n'a rien pour ou contre Kabila, ça ne doit pas être personnalisé. Nous disons simplement qu'il faut une transition apolitique. Et je crois que le nom qui vient de plus en plus et que nous entendons de plus en plus, c'est par exemple le docteur Mukwege, le professeur Mbata et certains membres de la commission épiscopale. Donc nous n'avons rien contre ces gens-là-bas. Nous sommes appuyons aussi longtemps que ils rencontrent l'assentiment de beaucoup de Congolais du terrain. Nos politiciens se sont arrangés pour prendre le pays en otage. On le sent dans la façon dont la Cour suprême se comporte. Et nous avons les contacts avec certains des membres de ces institutions. Ils se plaignent. Ils n'ont pas les mains libres. En fait, ils ne sont pas indépendants.
Docteur Miatusila Malonga, membre du collectif d'intellectuels congolais de la diaspora et de l'intérieur, signature de la lettre adressée au Conseil de sécurité. Au Libéria, la Cour suprême a convoqué la Commission électorale nationale pour une audience demain jeudi. Elle a été saisie par trois partis politiques contestant les résultats du premier tour de la présidentielle du 10 octobre. Cette audience menace de retarder la tenue du second tour prévu le 7 novembre entre l'ex-star du foot George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai. La Cour suprême a en effet ordonné à la Commission électorale de suspendre toutes les actions liées au second tour prévu le 7 novembre jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le cas.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Tchad, plus de 1300 ex-éléments de la secte Boko Haram, tous originaires de la région du lac, ont quitté le mouvement djihadiste pour faire la paix. Notre correspondant André Kodmadjingar s'est rendu la semaine dernière dans cette région.
Après plusieurs mois de cantonnement dans un camp de transit à Bagassola, ces repentis de Boko Haram ont été confiés à leurs chefs des communautés respectives. Des sensibilisations ont été faites auprès de la population locale pour ne pas les stigmatiser, mais plutôt les accepter dans la communauté comme leurs frères. À Yakwa, un des villages abritant une partie de ce repenti situé à une dizaine de kilomètres de Bol, chef-lieu de la région du lac où nous sommes rendus, quelques repentis expliquent comment ils ont été enrôlés dans cette secte.
Je vivais avec mon mari quand les Boko Haram sont venus dans notre village. Ils ont tué les gens et brûlé toutes nos maisons. Ils nous ont dit que si nous ne partons pas avec eux, ils vont nous tuer aussi. C'est ainsi qu'on a décidé de partir avec eux en abandonnant nos deux enfants. À chaque fois, on attaque un village et quand les habitants fuient, on ramasse leurs provisions et on se partage pour manger. Chemin faisant, mon mari a été tué et ils veulent me donner un autre mari et j'ai refusé. Ils m'ont menacé et j'ai fui pour venir ici après avoir combattu pendant 3 ans avec les Boko Haram.
On m'a enrôlé de force. Tous les jours, durant les 3 ans que j'ai mis avec eux, ils nous ont appris le maniement des armes, par exemple comment faire exploser une bombe. Maintenant que j'ai retrouvé mes parents, je ne vais plus repartir.
Un agent humanitaire qui requiert l'anonymat a déclaré à la VOA Afrique que les autorités locales font de la gestion de ces repentis leur fonds de commerce.
La meilleure approche, c'est de ne pas les considérer comme des repentis à part dans les actions de développement, mais c'est de mettre les actions de développement ensemble. En voulant les aider, vous créez quelque chose ici. Le petit commerçant qui n'a pas bougé avec son moulin ici, vous venez avec un moulin sophistiqué, vous donnez aux repentis, mais vous avez cassé son marché. Ce n'est pas parce qu'on les a vus à la télé qu'ils souffrent qu'il faut donner des moulins. C'est un seul problème de communication. À qui m'adresser en cas de problème en tant que repenti? Parce que si tu dis à l'autre, il va aller te trahir. Du moment où les responsables se devenir fonds de commerce. Tous ceux qui sont dans les pirogues, c'est des agents de renseignement.
Pour le gouverneur de la région du lac Adon Forte, il n'y a aucun problème dans la gestion de ces repentis.
À ma connaissance, il n'y a aucun problème. Depuis qu'on a intégré dans des familles, il y a au moins deux fois des affiches au niveau des femmes qui ont été faites. Là, nous sommes en discussion pour essayer de voir comment les partenaires peuvent nous aider afin que ces gens puissent prendre en charge leur avenir des pas de la manière qu'on arrive à les responsabiliser pour qu'ils puissent prendre conscience.
Selon les indiscrétions, beaucoup sont repartis puisqu'ils sont fatigués d'attendre la promesse de leur réinsertion qui tarde à se concrétiser. André Koduma Djingar de retour de Bol dans la région du lac N'Djamena pour VOA Afrique.
En Libye, près de 300 migrants, dont 40 femmes et 19 enfants, ont été secourus au large des côtes alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe par la mer, d'après un responsable de la marine libyenne. Les migrants ont été transférés au centre de rétention de Tanjoura en présence de représentants des agences de l'ONU. Selon un dernier bilan de l'Organisation internationale pour les migrations, près de 150 000 migrants sont arrivés en Europe par la Méditerranée entre janvier et octobre cette année et au moins 2 826 autres sont morts ou disparus en mer. Si les arrivées en Espagne ont presque triplé selon l'OIM, plus de 14 000 cette année contre environ 5 000 à la même période en 2016. Celles enregistrées en Italie ont baissé de 30% sur les 10 premiers mois de l'année. 111 000 contre près de 160 000 l'année dernière, selon des statistiques du ministère italien de l'Intérieur. Deux policiers tunisiens ont été poignardés aujourd'hui devant le Parlement par un extrémiste. L'auteur de l'attaque a été arrêté, d'après le porte-parole des forces de sécurité nationale. Depuis la révolution qui a renversé la dictature en 2011, la Tunisie fait face à un essor de la mouvance djihadiste qui a fait plusieurs dizaines de morts, notamment des policiers, des militaires et des touristes étrangers.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici même, aux États-Unis, le chauffeur de la camionnette qui a tué 8 personnes hier en fonçant dans la foule à New York a laissé un message manuscrit, un message dans lequel il prête allégeance au groupe État islamique. Les enquêteurs ont découvert ce message rédigé en arabe près du véhicule de l'homme identifié comme étant Seyfoulo Seipov, selon des responsables des forces de l'ordre. Le gouverneur de New York, André Cuomo, a affirmé que l'auteur de l'attentat était lié au groupe État islamique et s'était radicalisé aux États-Unis. Un drapeau de l'UE aurait également été retrouvé dans la camionnette du chauffeur ouzbek de 29 ans. Selon plusieurs médias, le tueur présumé, qui a été arrêté par la police de New York, a crié « Allah Akbar, Dieu le plus grand » en sortant de son véhicule. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dénoncé une attaque tragique et inhumaine. Aujourd'hui même, le pape François s'est dit affligé après une série d'attentats récents dans le monde, dont celui de New York. Toujours aux États-Unis, les républicains du Congrès présentent leur projet de réforme de fiscalité perçu comme le projet phare du début de présidence de Donald Trump. L'objectif est d'injecter quelques 1 500 milliards de dollars dans l'économie dans les 10 prochaines années. Si ce projet est adopté et promulgué, ce serait la première grande réforme fiscale depuis 1986. Le Congrès poursuit les auditions de responsables des géants de l'Internet, Google, Twitter et Facebook. Ils ont reconnu avoir servi de plateforme à des actions de propagande russe pendant la campagne présidentielle de 2016. Après une commission du Sénat, c'est la commission du renseignement de la Chambre des représentants qui mène ces auditions. En Palestine, le mouvement islamique Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a cédé ce mercredi à l'autorité palestinienne le point de passage entre l'esclave palestinienne et l'Égypte. Nazmi Mouana, principal responsable de l'autorité palestinienne pour les postes frontières, et son homologue du Hamas ont signé l'accord permettant ce transfert de responsabilité. Cette session de point de passage est considérée comme un test pour l'accord de réconciliation palestinienne conclu le mois dernier. Du sport à présent, et nous parlons Ligue européenne des champions. La quatrième journée des phases de poule se joue ce soir après la gifle infligée au petit poucet Maribor par Liverpool, 7-0 au match aller. Les Reds accueillent les Slovènes à Anfield. Le FC Séville sera face au Sparta à Moscou. Dans le groupe D, Besiktas peut éliminer définitivement Monaco en cas de victoire. Le FC Porto accueille les Allemands de Leipzig. Fin de ce bulletin d'information. L'info revient dans 55 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.